quatrième jour du festival pour ceux qui sont à Cannes, au micro de Radio PFM, avec moi Marc Olry, distributeur de films de Lost Film, qui va être bientôt d'actualité dans notre région, puisque sortira sur les écrans à Lille, au Majestic de Lille cet été, en sortie nationale du Silence et des Ombres. Alors avant de revenir sur cette actualité, moi j'aimerais savoir, Marc, quand on est distributeur de films, jeune distributeur, comment se passent vos journées à Cannes et qu'est-ce que vous venez y faire essentiellement?
Alors moi, c'est vrai que j'ai une approche un peu ancienne maintenant du festival, ça va être presque ma 20e année. J'ai découvert le festival au début des années 90, et ma première Palme d'Or, donc c'était pour Sailor et Lula.
Wow.
Et donc c'est vrai que ça marque les esprits. Et puis à l'époque, j'étais surtout étudiant en cinéma, donc c'est vrai que j'étais accrédité en tant que cinéphile. J'étais étudiant à l'université Paris 3 à Sancier, et donc en tant qu'étudiant qui participe à la cinémathèque de la fac, on avait quelques dossiers d'accréditation. Donc c'est vrai que rien ne vaut la première fois où on découvre le festival, parce que tout est nouveau, on a les yeux grands ouverts et on se rend compte que tout est possible à Cannes, en fait, qu'on peut voir plein de films différents, croiser les réalisateurs, les stars aussi en même temps. Et alors maintenant, vieillissant, je cours peut-être moins les projections, je fais plus de choix, mais c'est toujours aussi à chaque fois une surprise ou une déception, parce qu'il y a des gens qu'on a envie de suivre, d'autres qu'on a envie de découvrir. Et puis après, maintenant en étant distributeur aussi, quelques contacts, retrouver des collègues, croiser aussi les gens qu'on a d'habitude juste au téléphone ou par mail, comme les exploitants de salles de province. Et là, maintenant, on met des visages après sur des voix et sur des noms aussi. Donc, c'est bien. Et puis, des gens qui spontanément, là, plusieurs fois, sont venus me dire « Ah, c'est bien, vous sortez du silence et des ombres, je ne connaissais pas, c'est une bonne idée. » Rencontrer aussi la personne avec qui on est en contact au long de l'année pour acheter les droits des films. Donc, c'est une société qui s'appelle Hollywood Classic. Donc voilà, c'est vrai que Cannes, ça sert aussi à ça. C'est à la fois prendre du plaisir à découvrir des films et puis croiser aussi des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir d'habitude.
Et alors, comment on s'organise une journée pour vous?
La journée type, alors aujourd'hui, c'est marrant, j'ai justement pris contact avec quelqu'un, un vendeur international qui gère un catalogue de films et une société que je ne connaissais pas, qui s'appelle Park Circus et qui gère notamment les classiques du cinéma anglais et puis aussi les classiques des films de Columbia. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai découvert un film que j'ai raté hier, d'Abbas Kiarostami, avec Juliette Binoche, qui m'a un petit peu désarçonné. C'est vrai que le dispositif du film n'est pas très facile d'un premier abord. C'est vrai qu'à Cannes, on découvre des films très grand public, où il y a un plaisir instantané, et puis il y a des films un petit peu plus compliqués, où le dispositif pour prendre le spectateur est plus difficile. Et c'est vrai que moi, j'ai pas trop marché sur celui-là.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter, vous en avez déjà parlé, mais un des meilleurs souvenirs de vos différentes années à Cannes qui vous ont marqué?
En fait, on se rend compte maintenant, alors je n'ai que 40 ans, mais c'est vrai que c'est presque mon 20e festival, je crois. Ce qui est marrant, c'est de voir grandir avec nous des réalisateurs qu'on a découverts. Et c'est vrai que quand je dis rien ne vaut la première fois, c'est vrai que quand on découvre, par exemple, un film comme C'est arrivé près de chez vous à la semaine de la critique et qu'on se bouscule pour aller le voir et qu'on rencontre, qu'on voit pour la première fois Benoît Poulvord et qu'on voit le parcours qu'il a effectué depuis, ou quand on découvre Quentin Tarantino en séance de minuit pour Reservoir Dogs, et maintenant c'est quelqu'un qui est indispensable à toute sélection, c'est vrai que ça marque, c'est des choses qui restent. Moi, je n'oublierai jamais ma première année à Cannes, parce que c'est vrai que la même année, je redécouvrais en salle un film que j'avais jamais vu à sa sortie, Blue Velvet de David Lynch. Et quelques mois après, je découvrais Sailor et Lula. Donc c'est vrai que ça m'a fait un vrai choc. Et depuis, c'est devenu un de mes réalisateurs chouchou et favori.
Bien. Alors maintenant, on va parler du silence et des ombres. Est-ce que vous pouvez en parler aux spectateurs pour leur donner envie de découvrir cette fiction? Donc, vous allez donner à découvrir partout en France à partir du 7 juillet, pardon. Voilà.
En fait, c'est marrant. Donc ma société Lost Film a été créée il y a un an. C'est un titre que j'ai découvert il y a 2-3 ans par hasard en DVD. Parce que j'avais toujours envie de pouvoir proposer des films rares et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors J'ai rien contre des classiques. Mon film favori, c'est Laurence d'Arabie, par exemple. Mais c'est vrai, c'est pas ce que j'ai envie de faire découvrir en tant que distributeur. J'ai envie, avec Lost Film, de proposer un film classique de répertoire des studios américains, mais comme si c'était un nouveau film. Et c'est ce que j'ai eu le sentiment de faire l'année dernière avec La Rumeur de William Wyler et Audrey Byrne. Et là, c'est ce que j'ai l'impression aussi de faire avec Du silence et des ombres, parce que le titre, il dit peut-être quelque chose aux gens, mais je pense qu'ils ne le connaissent pas. Le réalisateur Robert Mulligan, ils ne le connaissent pas, alors que c'est un film très très classique et l'adaptation d'un roman américain qui parle à tous les Américains, qui s'appelle To Kill a Mockingbird. Et là, c'est vrai qu'il y a tout un travail à faire, parce qu'on est avec, c'est vrai, une star comme Gregory Peck, mais je me rends compte que les gens ne le connaissent pas. Ou alors, en effet, c'est peut-être des gens qui ont eu l'occasion de lire le roman. Mais le roman en France, qui est traduit de façon littérale, ne tirait pas sur l'oiseau moqueur, même s'il est toujours en tête de gondole dans les grandes librairies ou les FNAC, je me rends compte que certains ne le connaissent pas. Et là, c'est vrai que tout est à faire. C'est marrant, c'est un film qui était aussi présenté il y a une quarantaine d'années à Cannes, en compétition pour les États-Unis. Et cette année-là, c'est Le Guépard qui avait eu la Palme d'Or. Et là, alors moi, c'est un vrai coup de cœur. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la façon dont justement on nous prend par la main, dont on nous raconte l'histoire. Comme dans le roman, c'est le personnage principal, un enfant, la petite fille de Gregory Peck, donc dans l'histoire, qui nous raconte son histoire et sa vision du monde. Alors, on est dans les années 30, c'est un film en noir et blanc qui se passe dans le sud des États-Unis. On est encore en pleine ségrégation raciale. Le racisme est encore présent. Elle est la fille donc d'un avocat qui est très rigoureux, très juste. C'est vraiment le héros type américain. C'est un film qui dans l'esprit des Américains, et à la fois aussi d'abord par le roman qui était un vrai succès, a marqué les esprits. Par exemple, c'est un film qui et Gregory Peck, c'est un des héros. Il y a eu un recensement, à un moment il y a eu un classement pour les 100 ans du cinéma, je crois, par l'American Film Institute, qui a recensé les plus grands héros de l'histoire du cinéma. Et ce héros, donc Gregory Peck et son personnage qui s'appelle Atticus Finch, est arrivé numéro 1, mais devant Indiana Jones ou James Bond, ce qui paraît complètement ahurissant. Mais c'est pour montrer à quel point c'est vraiment ancré dans l'esprit du spectateur et des lecteurs américains, ce film et ce roman.
Donc ce sera à nous de redécouvrir cette vraiment petite perle, parce que j'ai eu la chance effectivement de découvrir par votre biais, hein, et on va effectivement défendre ce film bec et ongle, parce que c'est vrai que c'est des perles comme ça que les jeunes générations doivent découvrir, et puis nous un peu moins jeunes redécouvrir, et merci pour ce beau travail en tout cas.
Avec plaisir. Et puis c'est vrai que c'est un film en plus qui peut passer à la télévision. Je pense que les gens ne connaissent pas. C'est un film qui va peut-être passer sur les chaînes câblées, qui existe aussi en DVD, mais c'est vrai que voilà, il y a un vrai travail, comme pour un nouveau film.
Alors, vous dites qu'il est aussi en DVD. Alors, comment se battre pour que ce soit sur les écrans? Est-ce que c'est pas un peu suicidaire à l'ère d'aujourd'hui?
En fait, en discutant aussi avec les collègues distributeurs qui exercent depuis plus longtemps que moi, on se rend compte qu'il y a quand même toujours un public nouveau, des salles qui sont motivées, aussi des fois des enseignants, des dispositifs qui donnent envie de redécouvrir les films en salle, même si les moyens sont multipliés. Moi, par exemple, j'ai l'impression que je suis devenu cinéphile au début des années 80, quand j'ai acheté mon premier magnétoscope. C'est comme ça que j'ai eu envie de découvrir... c'est pas Clint Eastwood, mais je suis arrivé, j'avais un abonnement dans un vidéoclub et j'ai vu des jaquettes avec Clint Eastwood partout, réalisateur, acteur, et j'ai l'impression que je suis devenu cinéphile avec mon magnétoscope. Mais ça m'a toujours pas empêché d'aller voir d'autres films en salle depuis une DVD. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes spécialisées de cinéma. Alors, suicidaire, c'est vrai que ça a un certain coût, mais on se rend compte que quand il y a l'envie, qu'il y a une presse qui nous suit un petit peu, qu'il y a plusieurs articles, que les salles ont envie, et ben après, je pense que le public aussi, cette envie, elle peut naître de la même façon. Après, moi, je suis dans un rapport un peu passionné, parce que comme je sors un film par an, c'est vrai qu'il ne faut pas que je me trompe, parce que c'est un coup de sortie assez lourd, et qu'il faut réussir pour justement pouvoir espérer en faire un prochain.
Vous pouvez expliquer un peu au spectacle, enfin aux auditeurs plutôt, le coût justement de la sortie d'un film, et qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous pourriez sortir la tête de l'eau lors de cette sortie de film?
Alors, c'est vrai que là, par exemple, C'est le même procédé, c'est-à-dire on est en relation avec une société auprès de qui on se renseigne si les droits d'exploitation. Alors moi j'achète que les droits d'exploitation salles par exemple, hein, parce qu'il y a les droits pour la télé, pour les éditions vidéo, si les droits donc sont libres, et ensuite si par rapport à ce titre il y a du matériel en bon état pour pouvoir tirer des copies. Et c'est vrai que d'un titre à l'autre, le prix des copies peut être plus ou moins cher. Là en l'occurrence pour Du silence et des ombres, c'était beaucoup plus cher que pour La rumeur, et c'est vrai que là c'est un vrai pari. Alors moi j'ai envie d'y croire, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de très facile à mener jusqu'au bout. Maintenant j'ai l'impression que les salles sont très motivées, que les gens répondent un peu présents, les associations régionales aussi qui ont demandé le film pour le voir en amont, pour éventuellement le programmer dans leur cycle de patrimoine ou de reprise au long de l'année. Donc ça me donne un peu d'espoir, mais voilà, c'est vrai que rien n'est gagné. C'est vrai que
Puis, il faut aussi signaler, il n'y a pas non plus que le travail de ressortir une copie. Il y a tout un travail qui est mené autour. Hein, vous l'avez dit, recherche de gens, enfin d'exploitants de salles, mais il y a tout un travail aussi pédagogique. Enfin, il y a la création de documents qui accompagnent le film.
Alors c'est vrai que pour La rumeur, mon premier film, et pour celui-là, Du silence et des ombres, je pars du principe que voilà, faut vraiment accompagner le film comme si c'était un film nouveau. Donc pouvoir réfléchir à un visuel, créer cette envie-là, parce que c'est la première façon pour communiquer avec un film, c'est son visuel, son affiche, que maintenant Internet aussi fait beaucoup, que c'est important de pouvoir proposer, créer l'envie, comme pour un nouveau film, donc c'était à proposer une nouvelle bande-annonce pour les sites Internet. Aussi, j'accorde beaucoup de soin à donner des pistes pour découvrir l'œuvre ou le réalisateur ou les comédiens avec un dossier de presse un petit peu détaillé. Là, en l'occurrence, ce qui était intéressant aussi, c'était de resituer le film par rapport au roman, d'autant plus que là, sur l'île, vous allez faire, je crois, un beau cycle autour de la littérature et du cinéma. Et c'est vrai que c'est une façon aussi de susciter l'envie. Alors, par exemple, peut-être que des gens vont avoir envie de relire le livre, ou peut-être que les gens, en lisant le livre, ont envie d'aller voir le film. Alors, il y a un petit partenariat qui est fait avec le Livre de Poche, justement, qui va me permettre aussi de toucher peut-être des gens... Alors des enseignants, par le biais de l'espace enseignant du Livre de Poche, justement, on communique ensemble, et peut-être qu'ils auront envie d'y amener aussi des collégiens ou des lycéens. Après, c'est vrai qu'il y a des dispositifs aussi qui permettent la circulation des films, et puis des films au programme aussi maintenant au lycée.
Mais merci Marc Olry de m'avoir accordé ce temps. On peut souhaiter bon succès pour la sortie d'un film, ou ça se fait pas?
Si, non,
ça
moi aussi, moi je suis pour.
Il n'y a pas de...
Je prends tous les encouragements.
Merci Marc.
Merci.